France Culture. Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort, tué dans les frappes israéliennes et américaines. Une annonce célébrée par les Iraniens selon des témoins et des vidéos. De l'autre côté, en Israël, les sirènes retentissent. L'Iran riposte comme promis après la mort du guide suprême. Les Israéliens réfugiés dans les abris attendent la fin de cette nouvelle guerre, mais la majorité d'entre eux soutiennent l'offensive. Sa mort marque la fin de plus de 3 décennies d'un règne brutal pour le peuple iranien. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, est mort à l'âge de 86 ans. Annonce faite par Donald Trump, puis confirmée par Téhéran dans la nuit. Ali Khamenei dirigeait l'Iran depuis 1989, après la mort de l'ayatollah Khomeini, fondateur du régime, et détenait un pouvoir quasi absolu sur les questions religieuses, politiques et militaires. Son règne a été marqué par un durcissement progressif et de violentes répressions. Responsables vont assurer la transition en attendant un possible successeur. Les médias iraniens ont également annoncé la mort de la fille, du gendre et de la petite-fille du guide suprême dans les frappes israéliennes et américaines. Mais dès l'annonce de Donald Trump hier soir, des vidéos de liesse en Iran ont commencé à circuler sur les canaux des chaînes d'opposition iranienne en exil. Alors que les connexions internet sont très perturbées dans le pays, des images que nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer de manière indépendante ce matin, mais ces médias iraniens d'opposition montre des rassemblements de joie en Iran pour célébrer la mort du guide suprême. Écoutez Timur Özturk, envoyé spécial dans la région.
Un concert de klaxons de nuit dans plusieurs villes d'Iran, des rassemblements de jeunes qui dansent, exultent en pleine rue à Ispahan ou Téhéran pour célébrer la mort d'Ali Khamenei. C'est ainsi que sont présentées ces images diffusées sur les réseaux sociaux par les principales chaînes iraniennes en exil. On y voit aussi des Iraniennes et des Iraniens à leurs fenêtres depuis chez eux crier des slogans contre le régime, mais aussi de premiers rassemblements là sur un rond-point où des jeunes ont allumé un feu, ou d'autres réunis devant le domicile d'une adolescente tuée par la répression du régime au début du mois de janvier, célébrant l'annonce de la mort du guide suprême. Certains des médias qui diffusent ces vidéos sont réputés proches du fils du dernier shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui s'est exprimé depuis son exil aux États-Unis pour annoncer la fin très proche de la République islamique et appeler les Iraniens à se tenir prêts à descendre massivement dans les rues.
Et à l'inverse, tôt ce matin, des milliers de personnes se sont rassemblées à Téhéran, cette fois-ci pour rendre hommage au guide suprême. Les autorités ont annoncé 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Les sirènes résonnent dans le centre d'Israël. De nouvelles frappes ont été lancées après la mort du guide suprême. La population est réfugiée dans des abris. 24 heures après les premiers bombardements de l'armée américaine et celle de l'État hébreu sur l'Iran, 24 heures après les premières ripostes de Téhéran, une nouvelle guerre dont les Israéliens attendent déjà l'épilogue, tout en soutenant l'offensive pour une majorité. Écoutez le reportage de Thibault Lefèvre.
Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette guerre contre l'Iran est l'aboutissement de 30 ans de combats politiques. Pour son opposition, c'est une décision juste et nécessaire pour débarrasser le pays de son ennemi le plus puissant. La population israélienne est majoritairement au diapason de sa classe politique. Hier matin, Michel priait à la synagogue quand il a entendu les premières alertes.
Netanyahou, on le remercie parce que c'est un chef de guerre qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, cette guerre, il l'a menée. Et puis Trump, ben, pour nous ici, les Israéliens, vous savez, Trump, c'est comme un miracle. Voilà, il est arrivé au moment où il faut l'arriver. Trump, il a fait changer la donne dans ce Moyen-Orient. Et on verra bien si on avait tous raison de faire tout ça. Mais probablement, pour l'instant, on est dans la bonne direction.
Même sentiment pour Dor. Il a passé la journée de samedi dans un abri à 300 mètres de chez lui.
Ben nous, on pense que la frappe, ça va. Parce que le temps qu'on leur donne de reconstruire des missiles, ça pourrait être beaucoup plus agressif dans le futur. C'est pour ça, c'est le plus tôt possible, c'est mieux.
Et Dor, comme Michel, attendent désormais de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou qu'ils aillent au bout de leur projet de renverser le régime iranien pour ne plus subir, disent-ils, une menace qu'ils qualifient tous les deux d'existentielle.
Selon les secours, 21 personnes ont été blessées à Tel Aviv après une salve de missiles iraniens. L'Arabie Saoudite compte 2 morts. Du côté de l'Iran, le Croissant Rouge iranien a annoncé la mort de plus de 200 personnes dans les frappes à travers le pays. Le temps en France sera assez gris ce matin sur le nord-est. Le reste du pays sera sous le soleil. Côté température, elles iront entre 6 et 13 degrés. 7h05, vous écoutez France Culture. Tout de suite, question d'islam avec Galeb Benchek.
question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de maîtrise du champ sémantique, de précision de ce qui concerne le contour épistémologique de ce que nous disons, voire ce que d'aucuns appellent une violence épistémique, avec Shahed El-Nawaf Taqa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler, vous qui êtes juriste, conseiller à l'UNESCO, de ces sujets cruciaux, importants, quand il y a des crises et l'islam, soit avec sa majuscule qui renvoie à la civilisation, soit avec sa minuscule, même si pour certains, du point de vue spirituel, la question ne se pose pas, mais moi je la pose, serait, en tout cas la tradition religieuse islamique est ou serait en crise. Et donc pour pouvoir sortir par le haut d'une crise qui a assez duré, il faut au moins savoir de quoi on parle, de maîtriser le champ sémantique et peut-être de faire pièce à cette violence épistémique que vous-même, Shahed El-Nawaf Taqa, mettez en avant dans les débats actuels, tant en France que de par le monde, avec des oppositions qui sont érigées comme ça à l'emporte-pièce et qui ne résistent pas à l'analyse, pour peu qu'elles soient un peu objectives, rationnelles et qui fassent appel à l'intelligence.
Je m'intéresse au concept, au débat public et à ces ateliers sémantiques, on va dire, comment les concepts se construisent et comment on approche une ère géographique, une civilisation, une culture à travers ces mots. J'ai travaillé comme juriste et j'étais parfois amené à utiliser plusieurs langues. Il m'est arrivé dans le monde arabe, c'est dans mon expérience en tant que juriste dans le Golfe, au Moyen-Orient. Nous avions une discussion à propos de la question des sanctions internationales. Et en discutant avec mon employeur, j'ai utilisé, tout en parlant en arabe, j'ai utilisé le mot « islamism ». Et mon interlocuteur m'a regardé en me disant « c'est quoi islamism ?» Et là, toute une réflexion est née, et je me suis dit, en fait, j'étais au Moyen-Orient, en Orient, en terre d'islam, et j'ai changé en langue arabe en utilisant finalement un concept exogène à cette ère, mais qui, ailleurs, en fait, est aujourd'hui un concept alors, presque indiscuté.
Et donc, non seulement c'est un concept indiscuté, mais qui renvoie à l'horreur, à l'épouvante, à l'archaïsme, à ce qui est rétrograde, à la terreur, au terrorisme.
Exactement. Moi, en suivant une fois une discussion sur Anna Arendt, j'ai entendu ce concept de combat. Et je crois que l'islamisme, c'est un concept de combat, c'est-à-dire qu'on l'utilise non pas comme un outil d'analyse pour comprendre ou pour mettre dans une catégorie, mais c'est pour évincer ou délégitimer, un interlocuteur.
Peu recommandable.
Recalcitrant.
Et recalcitrant. Quoi, au débat, à l'analyse, à l'échange?
Oui, au monde civilisé, entre guillemets.
Rétif et réfractaire à tout ce qui relève des avancées modernistes et du progrès.
Oui, anti-moderne. Il y a tellement de mots et tellement d'adjectifs. Mais la réflexion est là et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce concept d'islamisme. J'ai essayé de comprendre tout simplement d'où vient-il, sa généalogie. Et on apprend et on comprend que avant 1979, c'était l'équivalent du mot islam. Et on l'utilisait.
C'est même jusqu'en 1992.
92, c'est ce que vous m'avez dit.
Quelques fulgurances. Roger Caractini, l'encyclopédiste, a écrit un ouvrage intitulé « Le génie de l'islamisme », faisant pendant au génie du christianisme de Chateaubriand.
Exactement. Moi, j'avais rencontré Paul Bolta, qui avait écrit sur ce sujet-là, le regretté Paul Bolta, Et j'ai essayé, en échangeant avec lui, j'ai essayé de comprendre vraiment pourquoi ils ont choisi de donner une nouvelle coloration, un nouveau sens à ce mot. Et il me disait, en fait, en 1979, nous avons été surpris par cette révolution en Iran et nous voulions distinguer le bon islam du mauvais islam. Et nous avons pensé que c'était la meilleure manière, en fait, de rendre les choses un peu claires à l'audience et aux lecteurs et dans le débat public. Et donc, nous avons donné une nouvelle signification à l'islamisme. Ça serait vraiment la dérive, l'utilisation politique d'une religion à des fins idéologiques.
Et à ce sujet, l'idéal eût été de qualifier l'islamisme, un peu comme l'a fait Bruno Etienne dans son ouvrage « L'islamisme radical ». C'est-à-dire qu'il lui faut une épithète. Parce que, et j'ai lu un de vos articles dans lequel il y a juste raison, si tant est qu'il me soit permis de cautionner votre travail, que l'islamisme, jusqu'au XIXe siècle, désignait la tradition religieuse islamique, comme le judaïsme ou le christianisme.
D'ailleurs, ce n'était pas très clair, parce que j'ai trouvé chez Nietzsche l'utilisation, par exemple, du mot wahhabisme pour parler de l'islam. Parce que je pense que pour l'écrivain ou l'intellectuel en Europe, les choses n'étaient pas encore très précises. On redécouvrait une ère culturelle. Mais ce dont je me suis... En suivant les débats en France, je voyais que l'islamisme, c'est devenu un peu un concept catch-all, diraient les anglo-saxons, attrape-tout. Et quand on regarde qui sont vraiment les islamistes, ben, on a un État comme la Turquie qui est membre de l'OTAN, avec des partis politiques qui, à un moment, étaient au pouvoir, maintenant, ils ont été évincés, puis il y avait Daesh.
Au Maroc, en Jordanie, en Tunisie. C'est-à-dire que la gamme va de Recep Tayyip Erdogan, dont on a envie d'avoir quelques grâces pour accepter de voter comme on veut lorsqu'il siège à l'OTAN, et ça va crescendo ou décrescendo jusqu'à Daesh et sa monstruosité idéologique et religieuse.
Exactement, une organisation terroriste et originaire de Mossoul, je sais quelles sont les conséquences. Mais donc je trouvais ça pas sérieux. Et là, je me rappelais un peu des lectures que j'ai eues très jeune, d'abord en découvrant l'orientalisme, et puis avec l'œuvre de Edward Said, Covering Islam. Et je trouve que nous sommes encore dans les travers, les biais qu'on peut avoir lorsqu'on veut comprendre ce qu'on appelle parfois le monde musulman, le monde arabe ou l'Orient, et parfois malheureusement c'est mélangé. C'est que derrière ce qui...
Là, avec ce qui se passe avec les mollahs d'Iran, on fait venir quelques politistes et on les présente comme spécialistes du monde arabe.
Exactement.
Pour nous parler de ce qui se passe chez les Perses.
Chez les Perses, exactement. Il y a un vernis scientifique, ça paraît être rationnel et scientifique, mais lorsqu'on approfondit un peu les choses, on se rend compte que c'est toujours les mêmes façons de faire et de voir le monde arabe ou le monde musulman. On classifie, on objective pour mettre à l'écart, pour marginaliser. C'est pour ça que je parle de violence épistémique. Nous ne sommes pas dans une volonté de comprendre ou d'analyser des phénomènes. Il s'agit, je pense, d'avoir toujours une approche confrontationnelle avec le monde musulman.
Pour revenir à au glissement entre islam et islamisme, alors d'aucuns, même bien intentionnés, disant « Non, vous savez, il ne s'agit pas d'islam, il s'agit d'islamisme. L'islam, ce sont des gens plutôt bien. En revanche, je parle des musulmans, mais les islamistes, nous les en avons en horreur. » Mais tant qu'on ne les a pas encore définis, et moi je me rappelle d'une convention qui a réuni, selon ses organisateurs, 4000 personnes au Dôme de Paris, il y a de cela à peu près un an, en présence du ministre de l'Intérieur d'alors. C'est pour combattre l'islamisme, mais ce dont on avait parlé, en gros, c'était l'islam, y compris de certaines dérives de l'islam, ou une approche conservatrice de la pratique religieuse islamique, mais on n'avait pas parlé d'islamisme.
Oui, pour reprendre Edward Said, c'est souvent l'expression d'une... C'est le moment où on exprime une antipathie culturelle vis-à-vis de ce qui ne serait pas nous, de ce qui serait l'autre barbare.
L'autre qui n'est pas moi est moins que moi.
Exactement. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être on veut...